Alors dans l'épisode précédent, on a mis en lumière ce qu'est la honte, comment elle fonctionne, comment surtout elle menace nos besoins fondamentaux de nous sentir être aimés et appartenir. Aujourd'hui, on va continuer notre exploration et plonger encore un peu plus profondément dans le sujet. Qu'est-ce qui fait qu'on la ressent au quotidien? Qu'est-ce qui fait que cette émotion nous pollue au jour le jour?
Bonjour, nous sommes Aimé et Adrien. Bienvenue dans Je vais mieux.
Je vais mieux est un espace de conversation honnête et d'exploration enthousiaste pour retrouver la faculté d'être vraiment connectés les uns aux autres, pour que nos relations répondent à nos besoins profonds d'être humain. Merci à vous toutes et tous qui revenez chaque semaine pour écouter, être inspirés et évoluer tous ensemble. C'est à travers vous que ce podcast vit.
Un des besoins les plus primitifs de l'être humain est d'être vu, entendu et accueilli tel qu'il est. On a tous besoin de ça. Et la honte, c'est le sentiment que quelque chose ne va pas en moi, que quelque chose dysfonctionne ou n'est pas aimable. Donc c'est précisément ça qui nous empêche de faire cette expérience de pouvoir être vu et être accueilli tel que l'on est.
Alors comment ça se construit? Parce que le bébé à la naissance, il n'a pas de honte, il n'a pas de pudeur, il n'a pas encore intériorisé ni jugement ni limite. Et en fait, il se laisse librement être lui, faire toutes ses expériences. Il n'a pas peur de passer pour un débile, donc il essaie absolument tout, et même il essaie plusieurs fois, même quand ça ne marche pas. En fait, il n'a pas cette auto-censure intérieure d'anticipation de ce que l'autre va en penser, du regard, etc. etc. Bon, il n'a pas non plus, accessoirement, la capacité à se protéger, parce qu'il n'a pas non plus de conscience des limites sociales, de ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui le met en sécurité ou pas, et il dépend de l'adulte pour ça. Et en fait, ça va un peu ensemble. Et justement, en grandissant, plus il va apprendre les codes sociaux, les valeurs, la communauté symbolique dont on parlait dans le premier épisode, c'est-à-dire ce sur quoi une communauté est d'accord d'un point de vue symbolique, ce qui se fait pas, etc. Plus il va apprendre tout ça, et plus il va intérioriser les limites, et quelque part, le sentiment de honte, comme d'autres sentiments, qu'on peut appeler des sentiments limites, aide à ça, à savoir que là, il y a une limite que je ne dois pas franchir sous peine d'être exclu de cette communauté symbolique. Et il faut bien comprendre que cette peur d'être exclu de la communauté symbolique, c'est quelque chose que, pour le coup, on a dès la naissance en tant que bébé, parce que c'est un instinct, en fait. C'est un instinct parce que notre survie physique et psychique en dépend. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer d'appartenir à un groupe, on ne peut pas se passer du lien aux personnes, en l'occurrence en général les parents, dont notre survie dépend. On ne peut pas non plus se passer d'être sur la même page ou sur la même longueur d'onde avec les gens autour de nous d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel. On ne peut pas se passer d'appartenir à un groupe humain. Donc on est armé dès la naissance de cette peur instinctive d'être exclu. Mais on ne sait pas encore qu'est-ce qui pourrait créer cette exclusion. Et ça, on va l'apprendre en grandissant. On va l'apprendre en prenant petit à petit conscience du regard de l'autre, par les remarques que vont nous faire nos parents, l'école, la société. Ça c'est un bon garçon, ça c'est un méchant garçon, ça c'est une bonne fille, ça c'est une méchante petite fille. C'est par tout ce qu'on va sentir qui va provoquer un inconfort chez les gens autour de nous ou quelque chose de désagréable. On sent bien que là, on a fait quelque chose qui se fait pas ou que on n'a pas fait quelque chose qui devrait se faire. Donc, petit à petit, l'enfant, il va sentir tous ces codes sociaux et il va les apprendre. Mais malheureusement, il va aussi les apprendre à travers tous les jugements que les adultes vont porter sur lui en permanence. Et ça fait naître cette compulsion à se conformer aux attentes sociales. Il faut que je sois comme il faut. Il faut que je sois comme eux, en fait. Il faut que je leur ressemble. Il faut que je me comporte comme eux. Il faut que je respecte les règles sociales, y compris celles qui n'ont pas de sens, y compris celles qui me font du mal, pour pouvoir appartenir à ce groupe. Donc il y a la peur d'être inadéquate, la peur d'être différent, la peur d'être mis à part tout d'un coup qui apparaît. Et tout ça, ça passe par des phrases assassines telles que « un garçon, ça pleure pas ». Tout d'un coup, le garçon comprend que s'il veut être considéré comme un garçon et plus tard comme un homme et appartenir à cette communauté symbolique, les pleurs et la tristesse, c'est fini. Il faut qu'il fasse une croix dessus. Par contre, il a le droit à la colère et à la rage. Donc il va s'en emparer autant qu'il le pourra. C'est les injonctions à ce que la petite fille soit jolie. Il faut être jolie, il faut mettre une jolie robe, il faut mettre une jolie jupe, il faut mettre tout ça. Donc la petite fille, quand elle sera grande, elle pourra plus sortir de chez elle sans être maquillée, sans avoir une jolie jupe, sans avoir éventuellement des talons. Il faudra toujours qu'elle soit belle, il faudra toujours qu'elle soit sur son 31, qu'elle ait toujours une apparence au top. C'est les phrases genre « si t'as pas des meilleures notes, tu vas pas réussir ta vie, tu pourras rien faire de ta vie » ou « t'es nul quand t'as eu des mauvaises notes ». Et ça, ça dit que cet acte de maintenant, cette note-là, ce moment-là de ta vie, en fait définit qui tu es, ce que tu vaux et toute ta vie future. Donc tout d'un coup, tu comprends que, ok, si je veux appartenir aux gens bien, qui ont un bon métier, si je veux être comme maman, comme papa, il faut que j'aie des meilleures notes. Et ça lance une tyrannie du résultat. C'est aussi, bien sûr, les phrases qu'on entend, genre « t'es méchant » ou « t'es pas gentil » quand l'enfant a désobéi. Non, l'enfant, il a juste testé la limite, il a juste fait son job d'enfant, en fait. Mais quand on y met le jugement de « gentil » ou « méchant », ce qu'on est en train de valoriser ou au contraire dévaloriser, c'est qui il est, c'est sa personnalité, c'est son intention, c'est son cœur, c'est ce qu'il a voulu. Or, cet acte-là ne définit pas qui elle est, qui il est, ne devrait pas, en tout cas, le définir. Dans cette phrase, ça le définit. Et puis, il y a aussi « arrête de faire ton intéressant ». Quand l'enfant dit quelque chose qu'il sait, parce qu'il est fier de le savoir, parce que tout d'un coup, il a quelque chose et c'est lui qui sait, ou c'est lui qui a envie de le partager. Et là, c'est « ne fais pas ton intéressant », ou « arrête de te vanter », ou cette espèce d'injonction à la fausse modestie qui fait qu'en fait, on n'est plus capable, en tant qu'adulte, de penser le moindre bien de nous-mêmes, parce qu'en fait, on a honte de penser du bien de nous. Mais du coup, comme on ne pense pas du bien de nous, bah, on a honte quand même. Donc dans tous les cas, on a perdu. C'est toutes ces phrases, en fait, tous ces jugements qui nous modèlent dans l'enfance et qui vont inscrire à l'intérieur de nous, déjà un, que ce que l'on fait définit la valeur de ce que l'on est, et ça, c'est terrible, c'est extrêmement dangereux, mais aussi qui va faire qu'on va intérioriser à l'intérieur de nous des conditions sine qua non pour être assez bien et être à la hauteur, et qui font que toute notre vie, on va se tyranniser avec ça, se surveiller, être en permanence en train de porter un regard sur nous qu'on imagine que l'autre pourrait potentiellement porter parce qu'on l'a entendu dans notre enfance.
Et ces phrases et ces scènes, elles peuvent avoir un très fort impact en fait sur l'enfance parce que justement, comme on le disait dans l'épisode précédent, la honte, c'est une émotion extrêmement puissante et c'est une émotion douloureuse. Donc en fait, elle engramme cette information d'une manière très très puissante et en général, on s'en souvient. Moi, par exemple, ça me rappelle une scène que j'ai vécue en terminale, mon premier cours de philosophie. J'ai toujours eu des difficultés avec l'orthographe et ce jour-là, j'avais un tout nouveau cahier dont j'étais très content et j'écris le mot philosophie en grand sur la première page et le professeur passe derrière moi et voit ce mot. Et dans une intention pas forcément très bienveillante, il me demande de passer au tableau et il me demande d'écrire le mot philosophie en très très grand, c'est-à-dire en utilisant tout l'espace du tableau. Donc moi je sens bien qu'il y a baleine sous gravillon et je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il me demande de faire ça? Bon forcément c'est le premier cours avec un nouveau prof donc on me demande de le faire donc je le fais et j'écris philosophie avec un Y. Et là, bien sûr, toute la classe rigole. Et Le professeur me regarde avec un air condescendant en disant « Mais t'es en terminale, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, c'est ridicule. » Et ça se transforme en une scène d'humiliation. Et 20 ans après, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un mercredi après-midi, un mois de septembre. Il faisait beau dehors, mais il y avait quelques nuages. On était dans un nouveau bâtiment. La deuxième porte à gauche en rentrant, c'était un Algeco. Vous savez qu'il y avait cette histoire, cette odeur un peu de peinture fraîche d'un bâtiment qui vient d'être refait, réhabilité. Moi, j'étais dans la classe, c'était le deuxième rang central, deux tiers vers le fond. Mon cahier, il était rouge. Et j'ai écrit ce mot avec un stylo d'encre fuchsia. Enfin, la scène, elle est engrammée dans mon corps comme si c'était maintenant. Et je me souviens bien de l'émotion que ça a créée. C'est-à-dire que je suis sur cette estrade en bois, qui grinçait un petit peu d'ailleurs. Et quand je réalise en fait que j'ai fait une faute d'orthographe et que c'est trop tard, je suis paralysé sur place. Et à ce moment-là, il y a un mélange de « je voudrais le tuer » ou « je voudrais mourir » ou « je voudrais disparaître » ou « je voudrais tuer tout le monde dans la classe ». Enfin, ça crée une émotion qui est au-delà de la colère, c'est de la rage. C'est vraiment une sensation de destruction qui est incontrôlable à l'intérieur de moi. Et en même temps, je suis pris sur le fait et je ne peux rien faire. Donc c'est aussi mélangé d'impuissance et d'injustice, qui sont un très très bon cocktail pour ensuite développer des pathologies pas très sympathiques plus tard. Et on est là, paralysé sur place. Et je regarde la classe et je cherche un moyen d'effacer cette lettre que j'ai écrite pour essayer de maintenir la face en disant « Non, mais en fait, je le savais » ou « La créelle a ripé ». Enfin, on essaye à ce moment-là de bricoler un truc pour essayer de sauver l'honneur face à la scène et face aux gens qui sont en train de rigoler devant nous. Et plus on fait ça, plus on se ridiculise. Et plus la scène devient absurde. Jusqu'au moment où, en fait, ben, je baisse la tête et puis je vais m'asseoir et puis j'attends que ça passe. Parce qu'en fait, il n'y a rien à faire. Mais en fait, ça a engrammé à l'intérieur de moi une honte et un ridicule de... Mais t'es vraiment trop nul, en fait, de pas savoir ça, en fait, en terminale à 18 ans. Mais c'est... Et ça crée une forme de jugement qui reste, parce que 10 ans après, cette question de l'orthographe, elle n'a pas disparu. Et quand j'arrive à la caisse d'un supermarché avec un simple carnet de chèque, pour remplir un chèque, pour payer ma note... Le simple fait de prendre le stylo, des fois, me paralyse au point de ne pas réussir à écrire les chiffres, tellement que j'ai peur de faire une faute d'orthographe. Pourquoi ? Parce que j'ai peur que la caissière qui va lire le chèque se moque de moi et que je recrée cette situation de ridicule que j'ai vécue à ce moment-là. Donc en fait, on voit bien qu'une forme d'humiliation qui déclenche de la honte a le pouvoir d'engrammer dans le corps un souvenir qui va rester autant de temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'on fasse quelque chose pour essayer de le désarmer. Mais ces émotions de honte dans laquelle on en arrive à la conclusion que qui on est ou comment on est n'est pas assez bien ou nul ou ridicule ou qu'en gros on finit par penser de nous-mêmes quelque chose de très négatif et de très valorisant, genre ben, en fait je suis une merde, je réussirai jamais à faire quoi que ce soit de ma vie, alors qu'en fait on a juste fait une faute d'orthographe sur un mot. C'est incroyable à quel point la honte a un pouvoir paralysant, destructeur, et qui s'engramme dans le temps d'une manière quasi éternelle, en fait. C'est vraiment une émotion très destructrice.
Et c'est ce qu'on disait un peu dans le premier épisode, en fait, la honte, elle est par nature liée au regard de l'autre, au jugement de l'autre. C'est ça qui fait ce côté d'humiliation et de ridicule, c'est « je perds la face devant les autres ». Donc, c'est déclenché par des situations de non-conformité aux attentes sociales. Par exemple, dans ton histoire, on attendrait de moi qu'à 18 ans, je sois capable d'écrire le mot philosophie, et donc j'ai honte parce que je n'arrive pas à me conformer à ces attentes sociales. Et ça menace mon appartenance au groupe. Si je suis pas comme il faut, alors je vais être exclue, ridiculisée, mis à part, etc., etc. Mais il y a aussi, et peut-être surtout, le sentiment d'infériorité et de dévalorisation que ça crée à l'intérieur de moi, qui fait que ça me donne cette sensation que je pourrais pas être aimée, que je vaux plus rien, que toute ma personne ne vaut plus rien pour une lettre, pour une faute, pour un caractère, d'être par exemple dysorthographique, pour une partie de moi, tout est condamné à l'intérieur de moi. Et comme tu dis, Cette chose, elle s'inscrit tellement fortement, tellement profondément, et ce sentiment de honte à ce moment-là, il englobe tellement toute la personne que tu es, que quand il est réactivé, de nouveau, c'est cette ampleur-là qui est réactivée, elle aussi.
Alors c'est incroyable, parce qu'on pourrait se dire que, en fait, il aurait suffi de pouvoir penser que cette remarque ou que cette scène était absurde et qu'elle était injuste, illégitime,
et profondément violente et inacceptable.
Et de se dire, ah ben non, c'est juste un prof qui a des problèmes dans sa tête et qui a eu envie de se venger sur un gamin, et voilà. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui se passe, parce que si on peut considérer que le regard et que le jugement de l'autre est injustifié, on le lui rend. On considère que c'est illégitime, on considère que c'est faux. On peut se rebeller, on peut se battre, on peut mettre de la distance. On ne va pas considérer que cette chose est vraie, mais au contraire, on va la rendre à l'autre en considérant que c'est son point de vue, c'est son avis, c'est contextuel, et que c'est erroné, que la personne se trompe. Et dans ce cas-là, ça ne laissera pas de séquelles. Mais si par contre, je ne peux pas mettre cette distance, soit parce que je suis trop jeune, soit parce que je n'y arrive pas, alors le jugement de l'autre, il rentre en moi. Il rentre en moi comme un couteau dans du beurre. Et souvent, la brèche qui permet à ce jugement de rentrer, c'est le jugement que je porte déjà sur moi-même. Donc en fait, c'est des jugements que j'ai intériorisés très tôt dans mon enfance à mon propos qui permettent à ton jugement extérieur de rentrer en moi. Donc en fait, c'est quand ce que tu dis fait écho à ce que je pense déjà de moi que ce jugement a le pouvoir de déclencher la honte. Alors quand on dit « il n'y a que la vérité qui blesse », en fait, c'est pas vrai.
Non.
En fait, c'est pas vrai. En fait, ça me blesse parce que je le crois de moi. Ça me blesse parce que ce que tu dis, je crois moi-même que c'est vrai. Consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs. Donc, c'est en faisant écho à mes propres croyances sur moi-même que tu me fais plonger dans la douleur. C'est parce que je pense ça de moi que quand tu le dis, je le crois, donc ton jugement réveille une douleur qui, en fait, était déjà là.
Oui.
Et c'est là où c'est une double peine, parce qu'on se dit, ok, donc, moi, j'avais déjà intériorisé à l'intérieur de moi des croyances dévalorisantes, qui du coup sont à peu près les mêmes, mais qui avaient déjà été installées plus jeunes. Et du coup, parce que cette personne-là va faire quelque chose qui réveille ça, ça va renforcer ça. Donc en fait, c'est la double peine permanente. C'est-à-dire que si au départ, j'arrive pas à avoir une estime de moi ou suffisante, ou alors que sur certaines choses, je n'arrive pas à voir ma valeur, alors ça donne la possibilité à l'autre, par son jugement, de renforcer cette sensation de dévalorisation que j'ai déjà de moi. Et ça devient une spirale infernale, en fait, de dévalorisation.
Oui. Un exemple qui me vient en t'écoutant, qui est malheureusement dramatique et en même temps trop fréquent encore, c'est dans les cas où une personne a subi une agression sexuelle, une violence, un viol, etc. Et le nombre de fois où elle va entendre de la police ou des organes de justice le fallait peut-être pas vous balader à cette heure-là, à cet endroit-là, ou fallait peut-être pas porter cette jupe, ou fallait peut-être pas vous comporter comme ça. Et en fait, ça, c'est un cataclysme. Alors déjà, bien sûr, parce que ça vient à un moment où la personne, elle est en vulnérabilité, mais aussi, et peut-être même surtout, parce que ça se fait l'écho de quelque chose qu'elle est déjà en train de se dire à l'intérieur d'elle. L'énorme majorité des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, que ce soit dans des cas avec de la violence physique où elles ont vraiment rien pu faire, ou même que ce soit pendant l'enfance où elles étaient complètement exposées en vulnérabilité, dont quasiment tous les cas, ces personnes-là vont se demander si c'est elles qui ont déclenché l'abus. Si c'est elles qui ont déclenché le fait que l'autre abuse d'elle et les violente. Cette idée-là, elle est malheureusement tellement systématique dans les violences sexuelles. Et quand quelqu'un de l'extérieur a le culot de se faire l'écho de ça, ça rentre comme dans du beurre, comme tu disais. Parce que malheureusement, en fait, elle est déjà en train de se poser cette question-là sur elle-même. Et bon, c'est un exemple caricatural, et bien sûr ça marche pareil pour toutes nos situations du quotidien, y compris celles qui sont beaucoup moins dramatiques, mais ça me faisait vraiment penser à ça, sur à quel point en fait on ne sait pas quand on porte un jugement qu'on est en train d'appuyer sur un endroit où la personne, elle a déjà mal, elle est déjà en train de se tyranniser avec ça, elle est déjà en train de se faire vraiment mal à l'intérieur d'elle. Et si en plus on rajoute la surcouche de « Ah ben si ça fait mal, c'est qu'il n'y a que la vérité qui blesse », c'est une horreur, c'est une horreur. On enferme l'autre dans un piège. Non, c'est pas parce que c'est vrai, c'est parce que je le crois aussi. C'est pas du tout la même chose. Ça, c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et du coup, en fait, ce que ça dit, c'est que à l'inverse, notre sentiment d'être aimé et d'appartenir dépend de notre croyance qu'on le vaut et qu'on le mérite, qu'on en est digne. De la même façon que si l'autre porte un jugement sur moi qui se fait l'écho d'une dévalorisation que j'ai déjà à l'intérieur de moi, à l'inverse, si je peux me sentir aimé et appartenir, c'est parce que je crois que je mérite de me sentir aimer et d'appartenir. C'est parce que je crois que je le vaux bien quelque part. Et donc, à l'inverse, si j'ai peur d'être rejetée ou de ne pas être aimée, de perdre l'estime ou l'amour de l'autre, c'est parce qu'il y a une partie à l'intérieur de moi, plus ou moins importante, qui croit que je n'en suis pas digne, qui croit que je ne suis pas à la hauteur, qui croit que ça ne tient toujours qu'à un fil avant que l'autre se rende compte que... ou qui croit que ça dépend du fait que j'arrive à faire illusion, et combien de temps je vais réussir à faire illusion. Et finalement, c'est ça le sujet du syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup. C'est ce sentiment que je mérite pas, je ne vaux pas, je ne suis pas digne de la reconnaissance qui m'est donnée, de ce que j'arrive à faire, des résultats que j'obtiens. Parce qu'en fait, je suis en train de jouer un jeu d'imposteur, et ça ancre cette peur de quand est-ce que je vais être découvert, mis à jour comme étant l'imposteur que je crois que je suis, parce que moi-même je ressens que je ne suis pas digne d'être à l'endroit où je suis, que je le mérite pas vraiment. Donc le syndrome de l'imposteur, c'est une histoire de honte, c'est une histoire de croyance que je ne le vaux pas. Une fois qu'on a compris ça, ce que ça permet de comprendre, c'est que quand dans une situation, notre cerveau nous raconte, interprète le fait que ce qu'on est en train de vivre est directement lié à ce qui est en train de se passer à l'extérieur, quand il cherche les causes dans le moment actuel et dans des sources extérieures, en fait, ce que l'on est en train de ressentir ne vient pas que de l'ici et maintenant. Ça vient aussi d'ailleurs et d'avant. Ça vient de nos croyances, ça vient de... des résonances que ça vient réveiller à l'intérieur de nous sur nos propres jugements, sur nos propres croyances de nous-mêmes, de ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous. Et tout ça va être réveillé par cette situation qui nous plonge dans la honte. Donc ça vient pas que d'avant et d'ailleurs non plus, puisque la situation vient le réveiller. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, le policier qui me dit « comment vous étiez habillé ?» Bien sûr que ça vient aussi de lui, cette honte que je ressens. Mais ça a cette puissance-là parce que malheureusement, je l'ai déjà à l'intérieur de moi. Alors que si, comme tu le disais tout à l'heure, je l'avais pas du tout et je le pensais pas du tout, je pourrais le mettre complètement à distance. Je pourrais lui dire « Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Quel est le sujet? En fait, vous n'êtes pas la garde nationale de la bienséance, vous êtes un policier, vous êtes là pour prendre ma plainte. Point. Vous n'êtes pas le juge, c'est pas à vous de décider. » Donc, je pourrais remettre cette distance, remettre chacun à sa place, remettre la normalité. Mais j'en suis pas capable à ce moment-là, parce que ça vient me plonger dans ma propre douleur et dans la honte qui est déjà en train de tourner à l'intérieur de moi.
Alors quand on est en prise avec ce sentiment de honte qui est tellement puissant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles seraient quelques pistes pour en sortir ? Alors, la première chose à faire, qui au début n'est pas facile, mais plus on le fait, mieux on y arrive, c'est de réussir à reconnaître les symptômes. Parce que la honte a vraiment des symptômes très spécifiques dans le corps que l'on peut ressentir. On ne pourra jamais le comprendre avec notre tête. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se dire « Ah tiens, ah oui, c'est vrai, là je suis dans la honte ». Non, non, c'est la sensation corporelle qui nous donne l'information. Et elle s'exprime de différentes manières en fonction des gens. Mais il y a un certain nombre de symptômes qu'on peut reconnaître et qui se répètent régulièrement. la sensation de ce qu'on appelle la vision en tunnel. C'est-à-dire que tout à coup, on ne voit plus ce qui est à l'extérieur, on ne voit que ce qui est devant, et ça crée une distorsion temporelle où on a l'impression que le temps se fige. Et c'est cette sensation qui nous donne l'impression d'être paralysé sur place, en fait. Ça peut être aussi associé à une variation de température, on peut avoir froid ou chaud en fonction de notre corps. Et en fait, ça nous bloque sur place, et tout à coup, on sort du temps. On est complètement déconnecté, en fait, de la scène. L'autre symptôme de la honte, un autre symptôme de la honte, ça peut être l'oppression thoracique. C'est-à-dire que quelque chose qu'on peut retrouver dans les crises d'angoisse, souvent à un niveau plus faible, c'est qu'on sent notre torse qui s'écrase, comme s'il y avait quelque chose qui nous prenait en étau dans le torse et qui nous empêchait de respirer. Tout à coup, la respiration, elle est beaucoup plus courte, et c'est comme si on n'avait plus de voix. Concrètement, la voix, on a beaucoup moins de puissance pour parler. Et d'un point de vue psychique, ce que ça déclenche, c'est que tout à coup, ça fait cet effet boule de neige de... on est en train de parler d'une petite chose, une faute d'orthographe, et tout à coup, ça crée une forme de résonance qui s'auto-alimente, et 5 minutes après, on en arrive à la conclusion qu'en fait, il n'y a rien dans notre vie qui tient, que qui on est, ça vaut rien du tout, que tout est foutu et qu'on n'y arrivera jamais. En général, quand on arrive à cette dramatisation extrême, où on arrive à la conclusion qu'en fait, notre vie, c'est de la merde, et nous aussi, on est de la merde, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est bien au-delà de simplement la colère ou le ressentiment ou d'autres émotions. Ça, en général, quand ça se déclenche, on peut y trouver de la honte.
Il peut y avoir aussi des émotions qui peuvent être très physiologiques, type la rage, par exemple. Le sentiment de rage, pour beaucoup, ça peut être une façon de réagir à la honte. Et en même temps, plus que la colère, justement. Vraiment, la rage de « j'ai envie de détruire, j'ai envie de tuer », ce que tu décrivais tout à l'heure par rapport à ce prof, ce sentiment qui émerge à l'intérieur de nous, encore une fois, avec une puissance incroyable qui peut justement donner très très chaud aussi et qui va avec ça.
Ou l'inverse de la rage, c'est-à-dire le renoncement et le désespoir total.
C'est ça, l'impuissance.
Vraiment l'impuissance qui nous paralyse, où on aurait envie de disparaître ou de mourir. C'est vraiment, soit se battre jusqu'à tuer, soit au contraire nous-mêmes mourir. Et ça prend des proportions complètement disproportionnées par rapport à la nature de la scène qui est techniquement en train de se passer devant nos yeux. Donc une fois qu'on a pu identifier qu'en fait ce qu'on est en train de vivre, c'est de la honte, nous, on appelle ça une tempête de honte, parce que ça nous prend par surprise et que ça nous accapare. Une fois qu'on a pu identifier ça, l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la mise en sécurité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pas de communication. On va être complètement incapable de communiquer correctement avec qui que ce soit. Donc, pas de texto, pas de coup de téléphone, pas de prise de décision non plus, de quelconque nature.
Pas
que ce soit.
Je vais gérer ma to-do list ou je vais faire des choses. De toute façon, tout ce que je vais faire, ça va capoter parce que je suis dans un tel état émotionnel que je pourrais pas y arriver.
Et dans l'idée de la mise en sécurité, si la sensation de honte est vraiment aiguë, faut aussi éviter de prendre la voiture ou ce genre de choses, parce qu'en fait, notre capacité de concentration va être très très mauvaise.
Oui. Et même de vue, ce que tu disais tout à l'heure. On n'a plus le champ visuel. Enfin,
ça altère complètement nos sens, donc à ce moment-là, vaut mieux rester tranquille.
Oui.
Et à partir de là, chercher des manières de consommer l'émotion. Donc faire sortir, ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut pas le garder à l'intérieur. Donc ça peut être pleurer, ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être écouter de la musique qui nous remet en contact avec nos émotions, ça peut être marcher pieds nus pour ressentir le sol, moi c'est quelque chose qui marche assez bien, ça peut être prendre des douches pour ressentir notre corps avec l'eau, ça peut être chanter pour ressentir la vibration à l'intérieur du corps, enfin
crier, n'importe quoi.
Chacun trouve sa manière de faire, mais c'est chercher à retrouver le contact avec le corps, retrouver le contact avec la sensation, parce que l'émotion est tellement puissante qu'en fait elle nous déconnecte.
Oui, on se dissocie en fait, et c'est ça, c'est vraiment un des marqueurs de la honte, c'est qu'on se dissocie, et c'est ce que tu disais sur le fait que ça nous coupe de nos sens et que ça nous met en insécurité, c'est que tout d'un coup, je suis là, mais je suis plus vraiment là. Il y a vraiment quelque chose où, ben, à défaut de pouvoir disparaître physiquement, je disparais psychiquement. Et ça, c'est vraiment le marqueur de la honte aussi. Donc, c'est effectivement l'idée de consommer l'émotion, c'est de se reconnecter à soi et de faire baisser un tout petit peu l'intensité émotionnelle qui met notre cerveau en pétage de plomb, en mode « il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus personne, tout a sauté », quoi. Et de faire baisser un tout petit peu cette intensité émotionnelle pour retrouver la capacité à penser, à ressentir, voilà. à agir, à décider, etc., voilà. etc.
Parce que justement, ce qu'on disait, dans l'idée de ne pas prendre de décision ou de ne pas faire des choses techniques qui nécessitent le cerveau rationnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les émotions activent le cerveau mammifère, mais la honte active le cerveau reptilien de survie. C'est pour ça qu'on a ces réactions de « je veux tuer ou mourir ». C'est parce qu'en fait, on est sur une réaction qui est encore plus primitive. Donc à ce moment-là, essayer de prendre une décision ou faire quelque chose avec le cerveau rationnel, ça ne sert à rien, le câblage, il ne fonctionne pas. Oui. Là, la lumière, elle n'est pas à tous les étages, ce n'est pas la peine d'insister.
C'est quoi. Ça. Et puis comme tu disais tout à l'heure, et je trouve qu'on l'entend vraiment bien dans ton histoire, c'est qu'en fait, la honte, elle correspond à une intensité qui est celle du traumatisme. C'est-à-dire qu'on voit bien dans ton histoire à quel point c'est traumatique de te faire humilier comme ça, ridiculiser devant tous tes camarades de classe. Et c'est tellement traumatique que 10 ans plus tard, à la caisse, t'es encore dans ce trauma en écrivant ton chèque. Et que 20 ans plus tard, le fait de faire des fautes d'orthographe peut encore te mettre dans un état de rage et en même temps le sentiment que tu vaux rien, que t'es un handicapé, que t'y arriveras jamais. Ça, c'est encore vrai, ça s'active encore parce qu'en fait, ce trauma, il est tellement puissant que il active encore cette intensité émotionnelle. Donc il y a vraiment la définition même du trauma, c'est de déborder, de dépasser, de submerger les capacités du cerveau à gérer à un tel point que les plombs sautent et il y a plus d'électricité, il y a plus de jus, on peut plus rien faire d'autre que se couper complètement. Donc c'est pour ça que c'est important de faire descendre cette intensité pour que le cerveau retrouve sa capacité à le penser, à le mettre en mots, à en faire quelque chose, à pouvoir le transformer. C'est tout le travail du post-trauma, et c'est le cas dans ces scènes que, malheureusement, on a tous, souvent dans notre vie, dans notre enfance, de souvenirs comme ça.
Donc, une fois qu'on a réussi à faire baisser l'intensité émotionnelle pour retrouver le contact avec notre capacité rationnelle, l'étape d'après, c'est de raconter l'histoire. Par contre, il faut faire très très attention. Surtout à dans quel cadre et avec qui. Parce qu'à ce moment-là, on est très fragile. C'est très dangereux. Et une personne qui se permettrait justement de nous juger ou de nous donner des conseils à ce moment-là, quand bien même elle penserait à bien, ça peut, au contraire, empirer la situation. À
ou cet d'avoir endroit-là, pitié de nous.
Voilà, ou d'avoir pitié de nous. À cet endroit-là, ce qu'il faut rechercher dans la personne avec qui parler, c'est bien évidemment de la confiance, mais ce qu'il faut chercher, c'est de la capacité d'empathie. Le pire, c'est la sympathie. Paradoxalement, quelqu'un de gentil qui te dirait « Ah, mon pauvre chou, t'as vécu ça, oh, c'est très triste », en fait, ça va empirer l'émotion de honte. À ce moment-là, ce dont on a besoin, c'est d'une personne qui puisse nous rejoindre là où on est pour ressentir l'émotion avec nous, parce que la honte est une émotion universelle, donc en fait, tout le monde connaît ça. Donc à ce moment-là, il faut trouver une personne avec qui instaurer un climat de sécurité, et pouvoir raconter cette histoire, parce que, comme on le disait tout à l'heure, la honte a comme définition de se cacher, du coup, elle ne supporte pas la lumière. Donc à partir du moment où on va pouvoir en parler et la faire sortir, on va éviter que cette honte s'accumule à l'intérieur de nous et qu'elle se cristallise.
Après, comme tu dis, il y a la personne, il y a choisir qui, et ça, c'est bien de les avoir identifiés avant, mais il y a aussi quand et comment, c'est-à-dire de pouvoir dire à la personne « Ok, là, je suis dans une tempête de honte, est-ce que tu peux me donner quelques minutes ? Est-ce que c'est un bon moment pour toi ?» Parce que si la personne, elle est elle-même en train de faire complètement autre chose, ou que justement, elle allait sortir, et qu'en fait, ça la bloque, et que donc, elle est en attente qu'on ait fini notre histoire, on va le sentir, ça. Et on a vraiment besoin de à ce moment-là, d'être accueilli dans ce que l'on vit, c'est ce qu'on disait au début, c'est le besoin fondamental et c'est celui qui est justement mis à mal par la honte. Donc il y a vraiment aussi de mettre en place des codes avec ces personnes de notre choix en se disant ok, comment on se dit quand on a besoin d'un temps comme ça d'urgence de réconfort émotionnel ou juste d'écoute et ensuite le solliciter en disant ok, là, je suis dans ma tempête de honte. Est-ce qu'on peut ouvrir un espace de sécurité ? Est-ce que je peux te raconter ? Et quand la personne, elle dit oui, elle s'engage à être pleinement là pour un temps soit défini à l'avance, soit pas forcément, et à vraiment être avec ce que l'autre lui raconte et ce que l'autre ressent. Et cette intensité de présence aussi, cette qualité d'écoute, elle est essentielle à ce moment-là pour nous réancrer dans notre humanité, en fait. et dans le lien. Alors, la semaine prochaine, on ira voir quel est le cadeau caché dans toute cette histoire. Parce que toute épopée a un méchant, certes, mais aussi un trésor. Donc, quel est le trésor dans cet affrontement à la vie et à la mort entre la honte et le lien ? Retrouvez-nous la semaine prochaine et on l'explorera ensemble. Pour nous tous, les conflits sont une plaie, ce que nous essayons d'éviter. Parfois, au prix de ne plus être capable de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent, de poser des limites saines et de demander ce dont nous avons besoin. Et la relation petit à petit perd son sens. Dans d'autres situations, les conflits deviennent tellement récurrents et douloureux qu'on en devient usé, fatigué, et que la seule solution semble alors être de mettre fin à la relation. Et si ce n'était pas la seule solution ? Et si on pouvait désarmer nos conflits au moment même où ils pointent le bout de leur nez pour éviter l'escalade de violence et de mots blessants ? Et si on n'avait pas à en avoir peur, mais au contraire, qu'on pouvait plonger avec confiance dans nos vulnérabilités pour découvrir qui nous sommes? C'est le pari un peu fou que nous vous proposons. Ça vous dit plus de confiance en vous et de paix dans votre quotidien avec cette ou ces personnes qui comptent tant? Allez sur la page internet www.jevaismieux.fr/3C et découvrez gratuitement la méthode des 3C qui va changer votre vie. Merci d'écouter Je vais mieux. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Et si vous avez aimé, si ça vous a inspiré, laissez une note pour que d'autres puissent le trouver. Et laissez-nous un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus touché. Nous voulons vraiment vous lire. Et comme toujours, montrez votre humanité. Créez des relations qui répondent à vos besoins. Et aimez. Aujourd'hui.
Nous sommes Aimé et Adrien. Et ici, c'est Je vais mieux.